Tout de suite, des infos.
Pour rester informé tout au long de la journée, écoutez Radio Oméga.
Radio Oméga
103.9 Ouaga, 104.7 Bobo-Dioulasso. Radio Oméga, le journal. Les titres de l'actualité.
Brigitte Yoda.
Mesdames, Messieurs, bonjour. Au sommaire, le bilan de l'attaque survenue sur l'axe Arbinda-Gorgadji s'est alourdi. On dénombre à ce jour 65 civils tués. Embuscade contre un convoi des FAMA à Boni, c'est au Mali. Le nouveau bilan fait état de 15 soldats tués et 34 blessés. À la une également, l'édito de ce vendredi, où l'on se questionne sur la maîtrise par les FDS dans la lutte contre le terrorisme. Et puis nous parlons de la suspension des dossiers de promotion immobilière avec l'APIB, l'association des sociétés immobilières du Burkina, qui préconise une assise nationale sur le foncier avant toute modification des textes. Seydou Boro, le secrétaire général de l'APIB, est notre invité du jour. Le Burkina Faso entame ce vendredi son deuxième jour de deuil national après l'attaque survenue sur l'axe Gorgadji-Arbinda. Aujourd'hui, le bilan s'est alourdi. 65 civils ont été tués dans l'attaque perpétrée mercredi contre un convoi mixte qui a aussi fait 14 morts au sein des forces de défense et de sécurité, a annoncé hier le gouvernement dans un communiqué. Avec ce bilan révisé, l'attaque a fait au total 79 victimes. Les FDS et les VDP ont permis de neutraliser 58 terroristes selon un décompte final, a écrit le gouvernement dans un communiqué jeudi soir. Et comment Arbinda s'est réveillé au lendemain de cette terrible attaque? Bernabé Cabré a joint un habitant de la localité. Écoutez son témoignage.
Dites-nous comment vous avez accueilli la nouvelle de l'acte.
Nous, on a pris ça comme ça. Les gens sont sortis, puisqu'ils voient les forces de l'ordre qui partent vers Goli. Maintenant, en temps, on entendait, on disait qu'il y a un convoi qu'on a attaqué sur la voie de Gorgadji-Arbinda. Voici comment nous, on a appris la nouvelle.
Alors, vous confirmez que toutes les victimes sont de Arbinda?
Ça, on ne peut pas le dire. Sinon, la majeure partie, c'est Arbinda.
Et comment est-ce que Arbinda s'est réveillé?
De façon très bizarre. Les gens étaient cagés chez eux, il n'y avait pas de mouvement, les gens sont mécontents, les activités commerciales ne sont pas ouvertes.
Et actuellement, est-ce que vous voyez des forces de défense et de sécurité signalées dans la zone? Est-ce que vous vous sentez en sécurité actuellement?
Dans la ville, il y en a, mais est-ce qu'au niveau des alentours, c'est ça, je ne sais pas. Si la voie Arbinda-Gorgadji, est-ce qu'il y en a, je ne sais pas.
Un habitant de Arbinda, joint au téléphone par Bernabé Cabré. Cette énième attaque a plongé les Burkinabés dans le désarroi. Il faut prendre des mesures fortes, ont-ils dit, au micro de Elisabeth Yanougo et Jacob Compaoré.
Personnellement, je pense que le problème n'est pas ministériel, il n'est pas militaire. Il est beaucoup plus profond que ça. Donc, où est-ce que les touristes arrivent à recruter les gens? Il y a d'abord ça, ils arrivent à recruter au milieu des jeunes. Parce que quand on regarde le moyen d'âge de ces éléments-là, c'est des jeunes. Ils font face au chômage. Il faut résoudre ce problème de chômage. Il faut résoudre le problème des mines, la redistribution des ressources minières. Donc, moi, je pense que le problème, il est beaucoup plus économique, beaucoup plus social que militaire ou politique.
Le problème, là, c'est de ne pas laisser quand ils vont venir nous attaquer, avant d'aller prendre des mesures. Le problème, là, en tout cas, ça reste beaucoup à faire. Donc sinon, en tout cas, la population n'est pas du tout contente. Surtout, nous avons remarqué que surtout ceux qui sont au front, c'est les jeunes qui meurent en voulant défendre la patrie. Nous allons inviter les hauts cadres aussi qui participent au combat.
Bon, la population n'a pas besoin seulement pour qu'on soit aider les forces de défense, puisque de plus en plus, ça va tous nous arriver ici. Si on se lève pas seulement, ça va jouer sur tout, nous tous quoi. Il a changé les ministres parce que les gens se sont levés. C'est pour ça qu'il a changé les ministres. Puisqu'il était là depuis là, il disait rien. On a tué les gens et tous ils sont calés. Il disait rien. Quand les gars se sont levés maintenant, il a commencé à changer les ministres. Lui-même, il n'a plus le ministre. Voilà. Ça, c'est pas une solution.
Écoutez, moi personnellement, en tant que citoyen,
citoyens burkinabés, je pense que le problème ici n'est pas fait de changer un ministre ou quoi que ce soit. Le principal problème du tourisme est comme tous les Burkinabés, sans exception. Si le ministre actuellement a été changé, il faut que la population change leur position, leur façon de se comporter. Il faut que les masses populaires soient les premiers vecteurs du renseignement et de l'information pour contribuer à la sécurité du Burkina Faso.
Cette attaque-là a tellement duré il y a longtemps. Puisque quand on va regarder au niveau de la pauvreté, manque d'infrastructure, puisque si on regarde le pays comme ça, il y a d'autres qui, bon, leur commune là c'est bien construit. Par exemple, si on prend au niveau de l'ouest ou bien au centre-ville comme ça, c'est bien construit. Mais si on part au nord ou bien à l'est là, on voit que ça ne va pas. Il n'y a pas des infrastructures. Quand tu vas voyager, même si c'est 30 km là, tu vas faire 3 heures. Donc ça crée des problèmes. Je ne peux pas dire que le remaniement n'est pas bon, c'est bon. Le système qu'on va faire pour que le terrorisme finisse dans notre pays seulement, c'est ça qu'on souhaite. Voilà, on ne doit pas se décourager à avoir une solution pour combattre cette fléau.
À l'instant, des réactions de Burkinabés sur l'attaque de mercredi. L'attaque de mercredi dernier sur l'axe Gorgadji-Armida, c'est le sujet de l'éditorial d'Omega Media. Cette énième attaque soulève beaucoup d'interrogations et singulièrement sur la maîtrise des renseignements par nos hommes, fréquemment surpris par l'adversaire. Édito signé Ouizin Louis Houlon.
Un convoi de l'armée pris dans le piège de groupes armés qui ont mis le doigt sur la gâchette, c'est un pied de nez à nos forces de défense et de sécurité. Énième attaque contre nos troupes, surprise, encore dans une embuscade. Technique bien connue et enseignée dans l'initiation de base de tout militaire. Le deuil, il est décrété. Nous pleurons et pleurerons encore, car l'assèchement de nos larmes ne semble pas être pour tout de suite. L'espoir, seul recours psychologique qui nous dope et nous garde encore assis, mais peut rassurer tout de même. L'attaque sur l'axe Gorgadji-Arbinda renforce le sentiment général que les renseignements sont le nœud gordien du système sécuritaire burkinabé qui manque de capacité d'anticipation pour faire foirer les plans de la partie d'en face. C'est un cri de cœur et une alerte grave qui demande un sursaut d'orgueil de nos garçons qui, du reste, ne sont pas des novices en la matière. Si tant est que les armes sont leur métier, on est franchement en droit de se demander, de se questionner sur les causes de ces multiples déconvenues de nos militaires. Avant le départ d'une patrouille, qu'est-ce qui est fait en matière d'information? Les commandants de troupes au front s'entourent-ils de précautions avant de les lancer sur les routes? Pourquoi? Est-ce que ce sont nos éléments qui sont piégés et non le contraire? Améliorer le renseignement, changer le fusil d'épaule est un impératif de survie devant la montée de l'adversaire, un adversaire pas forcément plus armé et mieux entraîné, encore mieux plus équipé que les nôtres. Avec le procès médiatisé des terroristes engagé depuis mi-août, il faut être naïf pour croire que le front resterait tranquille. L'annonce du procès du capitaine Thomas Sankara pour le mois d'octobre aurait-elle aussi un impact sur la montée des attaques pour explorer la piste de ceux qui croient au complot politique? En tout état de cause, le gouvernement burkinabé doit répondre aux attentes de sa population, s'assumer, assurer et réassurer les Burkinabés qu'il n'y a pas péril en la matière et que la situation est sous contrôle. Les efforts de guerre doivent être collectifs, la collaboration active des civils pour les renseignements des populations oisives dans les bases et dancing de certaines grandes villes du Burkina, alors que le pays est en guerre et à l'opposé, quelques braves civils enrôlés comme volontaires, guerriers sans expérience, servant quasiment de chair à canon. Combien cette guerre coûte aux contribuables burkinabés? L'effort de guerre a un coût et se taire et faire comme si tout était rose est un choix dangereux. Il faut une claire définition de la politique qui est mise en place pour défendre la patrie. Expliquer les enjeux au peuple pour un sursaut d'orgueil bien coordonné, sinon, à petits pas, nous risquons le scénario à l'Afghanistan.
Après l'éditorial conflit foncier à présent, nous prenons la direction de Rumtenga dans l'arrondissement 4 de la ville de Ouagadougou où un terrain d'une cinquantaine d'hectares oppose des propriétaires terriens à une agence immobilière. Hier, lors d'une conférence de presse, les propriétaires terriens ont dénoncé une tentative de spoliation de leurs terres par une agence immobilière de la place qui aurait mal acquis le terrain, autrement dit qui a acquis le terrain auprès de supposés vendeurs qui ne sont pas en réalité propriétaires des lieux. Abdoulkader Konaté.
La saga des conflits fonciers se poursuit. Cette fois-ci, c'est un domaine de 50 hectares qui serait la cause de nombreuses jérémiades ici à Rumtenga. Alors qu'il était en Côte d'Ivoire, Moussa Sondo décide en 2017 de rentrer au Bercail. Grande fut sa surprise quand il constate que le domaine de ses défunts parents a été vendu par des personnes à qui la terre avait été temporairement confiée pour exploitation agricole. Bernard Sondo, fils du propriétaire terrien.
Quand il a voulu exploiter maintenant, le problème est venu. Il a fait son mur, ils sont venus saccager. Et quelques jours après, on constate qu'ils étaient en train de borner maintenant le terrain, de faire des parcelles. On est allé à l'information et il se trouvait que c'est une société immobilière qui était en train de lotir la zone. Donc, ils ont appelé les enfants des vieux qu'on avait attribués. Ils sont venus, ils ont reconnu que ce n'est pas leur propriété, mais ils ont vendu une partie à la société immobilière et l'autre partie à des particuliers.
L'affaire est certes en justice, mais Moussa Sondo dénonce un abus orchestré par l'agence immobilière en question qui tient mordicus à exploiter le domaine.
J'ai mis 4 plaques sur le terrain. Ils ont arraché les 3 plaques et détruit mon mur pour implanter leurs bornes. Quand nous avons déterré les bornes, ils ont envoyé les collègues venir m'arrêter, juste après que je sois libéré. C'est la police qui m'interpelle et j'ai été gardé là-bas pendant 3 jours, sous prétexte que j'ai déterré des bornes. Et ce, malgré que les témoins aient confirmé que le domaine m'appartient.
Les plaignants appellent donc les autorités à se pencher sur cette affaire qui dure depuis 4 ans afin qu'une suite heureuse soit trouvée.
Tout autre sujet désormais, les relevés des compteurs de l'ONEA se feront une fois tous les 2 mois et la consommation mensuelle sera cumulée en divisant le volume relevé. 2, c'est la facturation révisée de l'Office national de l'eau appliquée depuis juin dernier. Les responsables de l'ONEA ont rencontré la coalition contre la vie chère et l'union d'action syndicale à Kudougou hier pour le leur expliquer. Compte rendu, Sabuna Ouedraogo.
Déjà en avril, l'ONEA a rencontré l'administration publique, la Ligue des consommateurs du Burkina, des organisations de la société civile, des personnes de ressources et des consommateurs pour des discussions qui ont abouti à la réforme de la facturation afin d'améliorer le système qui était dénoncé. Aux yeux de l'ONEA, la nouvelle formule a besoin d'être expliquée aux participants.
Nous sommes là pour présenter à ces acteurs ce que nous faisons dans ce nouveau système de relevé bimestriel.
Adama Sawadro, inspecteur général de l'ONEA.
C'est pour faire comprendre comment nous procédons, comment nous facturons pour éviter tout ce que nous avons connu par le passé.
Selon Kizito Dakio, représentant de la coalition contre la vie chère, même avec cette nouvelle approche, des clients de l'ONEA ne se retrouvent toujours pas.
Depuis que effectivement cela a été appliqué, les gens sont un peu perdus dans la facturation. Ils prennent 2 factures, ils regardent, ils ne savent pas exactement comment les calculs ont été faits.
La CCVC déplore également les retards dans la remise des factures. Elle appelle l'ONEA à baisser le coût de l'eau et à améliorer son système d'adduction d'eau potable. Sabuna Ouedraogo, Kudougou, Radio Omega.
Le bilan de l'attaque au Mali revu à la hausse. 15 soldats ont été tués et 34 blessés, dont 10 grièvement au cours d'une embuscade imputée aux djihadistes jeudi dans le centre du pays, a annoncé l'armée malienne. Un convoi est tombé dans une embuscade en fin de matinée. Un véhicule piégé a d'abord explosé, suivi de tirs intenses, a indiqué l'armée dans son communiqué. Et puis Ebola en Côte d'Ivoire, 49 cas contacts recensés selon l'OMS. 49 personnes ayant été en contact avec une jeune Guinéenne testée positive au virus Ebola à Abidjan ont été à ce jour recensées, a indiqué jeudi l'Organisation mondiale de la santé. Un maillage a été fait et nous avons pu circonscrire les communautés dans lesquelles ces personnes vivent, a affirmé le ministre ivoirien de la Santé, Pierre Damba, lors d'un point de presse. Bien que la Côte d'Ivoire ait des frontières communes avec la Guinée et le Libéria, le pays n'avait enregistré aucun cas confirmé de la maladie à virus Ebola depuis 1994.
La revue de presse.
La récente attaque terroriste survenue sur l'axe Arbinda-Gorgadji mercredi est largement relayée par les journaux du jour. La revue de presse est présentée par Asma Odao.
Les quotidiens ont toujours les projecteurs braqués sur la dernière attaque au Sahel. Le pays qui, dans sa rubrique Dialogue intérieur, titre « Crise sécuritaire au Sahel, une si longue guerre. Pour le confrère, c'est à se demander si les terroristes ne sont pas actuellement en campagne dans ces trois pays, se référant du Mali, du Niger et du Burkina Faso. Son opinion est que cette nouvelle attaque devrait être un moment d'introspection et d'interrogation sur la meilleure stratégie à apporter. À preuve, malgré le changement de tête au ministère de la Défense et de la Sécurité, le Burkina Faso peine toujours à trouver la parade, constate le journal. Le quotidien Sidoya à propos titre « Diantre, où êtes-vous ?» se lit entre les lignes. Pourquoi la terre de nos pères téméraires s'est-elle tue en pleine bataille? Nos traditions ont-elles perdu les formules de libation sur l'autel des ripailles? Où sont passés nos révélateurs, faiseurs de miracles, draineurs de monde? Et le quotidien d'État de s'interroger, de quoi sera fait demain, digne prédicateur dans la peau de prévaricateur? Pour sa part, le confrère aujourd'hui au Faso fait remarquer que pas de trêve pluviale chez les terroristes. Il s'explique, ces attaques qui interviennent en pleine saison pluvieuse et de surcroît en août, réputées être un mois où il tombe des halebardes, montrent que les groupes armés terroristes, jadis limités dans leurs actions en cette période, ont franchi un palier. Le confrère estime que désormais, on ne pourra plus parler de trêve pluviale comme l'ont toujours ressassé des spécialistes de la question sécuritaire au Sahel. On a la vague impression que les terroristes ambitionnent d'empêcher les populations de s'adonner aux travaux champêtres.
L'invité de la rédaction.
Suspension des dossiers de promotion immobilière, on en parle avec l'APIB, l'Association des sociétés immobilières du Burkina, qui préconise une assise nationale sur le foncier avant toute modification des textes. Seydou Boro, le secrétaire général de l'APIB, est notre invité du jour et il répond aux questions de Moumouni Yaro.
Bonjour.
Bonjour, Monsieur Yaro.
Sur instruction du Premier ministre, le ministère de l'Urbanisme et de l'Habitat a entrepris une relecture des textes régissant le secteur du foncier et partant de là, la promotion immobilière. Une chose à laquelle vous vous opposez, pourquoi?
On ne peut pas s'opposer au projet de modification de loi de notre gouvernement, mais nous avons dit au ministère de tisser largement pour que tous les acteurs puissent participer et donner leur point de vue pour pouvoir, en tout cas, nous faire sortir du trou que nous sommes aujourd'hui.
Le trou dont vous parlez, est-ce que vous n'êtes pas quelque part responsable de tout ce qui se passe aujourd'hui?
Et nous tous, on a failli. L'État, nous, tout le monde a failli. Tous les acteurs du foncier au Burkina, tout le monde a failli. Tout le monde doit accepter sa responsabilité. Le ministère nous a donné un TDR à un week-end pour aller étudier l'avant-projet de loi à Manga. Nous avons assisté durant toute la semaine. Et nous avons relevé certains défis.
Là, vous parlez de l'atelier qui devait se tenir du 31 mai au 5 juin dernier sur la relecture de la réforme sur la loi 057-2018.
Oui, bien sûr. Et nous avons donné certains points qui n'est pas normal. Et les participants ont dit que non, ils vont revenir voir leur ministère et ce qu'il y a seulement, ils vont nous faire part. Le temps de nous faire part, nous, on nous est convoqués encore de venir sur la validation des projets de loi en question sans même tenir compte de tout ce que nous avons dit. Donc, nous, on ne va plus participer à cette projet de loi de validation parce que tu vas venir, on te montre à la nation et tes paroles ne sont pas comptées. Donc, c'est là, nous avons dit non, bon, ils peuvent aller valider. Nous, on n'est pas contraints à ce que l'État ne modifie pas ses lois, mais ce que nous avons demandé à l'État, c'est de tenir compte de ce que nous avons acquis.
De façon claire, de quoi vous parlez quand vous parlez d'acquis?
Pour avoir une délibération d'abord, tu pars dans un village, soit tu pars payer, soit tu t'entends avec les propriétaires terriens, bien sûr avec l'accord de tout le monde. Aucun immobilier n'est là au Burkina pour forcer un propriétaire terrien pour prendre sa terre. L'association Nakorolo Zanga a eu à faire des conférences de presse pour dire qu'ils sont avec. On est parti dans les mairies, on a fait les délibérations. À partir de ces délibérations maintenant, nous avons fait les dossiers techniques posés. Il y a des dossiers qui ne sont pas déposés, mais il y a plusieurs dossiers qui sont déposés. Nous avons dit à ce moment qu'une mesure transitoire pour accompagner ces dossiers, si après cela l'État veut modifier ses lois, il n'a qu'à modifier. Si tu peux travailler dedans, tu restes. Si tu ne peux pas travailler dedans, tu te cherches.
Justement, sur ce point, l'État pense à un accaparement des terres. Beaucoup se pensent à votre profit et non du social que vous faites.
Si on veut classer l'accaparement des terres, l'agro-businessman vient en première position. Les tierces personnes qui ont payé viennent en deuxième position. Les catholiques viennent en troisième position. Les promoteurs en deuxième position. En quoi maintenant vous pouvez prendre poser sur les promoteurs immobiliers. Mais moi, je crois qu'il faut dire la vérité à la nation. Un peu partout, s'appuie, dédou, quoi. On a vu les députés, les ministres, tout le monde a payé. Mais pour eux, ce n'est pas un problème. Un promoteur immobilier, tu payes 2 hectares seulement pour faire de la promotion immobilière. Pour toi, c'est un problème. Alors que d'autres personnes, on met des grillages posées sur personne normale. Ils n'ont qu'à vouloir l'enquête parlementaire. L'enquête parlementaire a prouvé que les réserves, les cocolas, ont été morcelées par l'État même pour vendre. Vous avez vu les résultats, comme c'est le cas, tout ce n'est pas un promoteur immobilier. Si ça, c'était un promoteur immobilier, ça allait créer des gaffes. Il y a un site sur la route des Saponais, là. Là-bas aussi, il y a eu les mêmes problèmes. Mais ce n'est pas un immobilier. Un promoteur immobilier ne peut jamais forcer quelqu'un. Un promoteur immobilier s'entend toujours avec les promoteurs terriens pour engager quoi que ce soit. Dans nos sites aussi, il y a des gars qui ont les titres, qui ont tout. Nous, on fait tout pour s'entendre avec la personne, même s'il faut les rembourser, pour en tout cas avoir une entente correcte avant de pouvoir faire quoi que ce soit.
Quelle est la solution que vous proposez aujourd'hui alors?
Nous avons tout proposé à l'État. J'étais en Côte d'Ivoire. On m'a décerné des trophées. Le ministère m'accompagne. Les banques m'accompagnent. Donc, je ne vois pas pourquoi, dans mon pays, je ne vois pas avoir ces accompagnements et on ne veut pas qu'on parle. Ça, moi, je suis en train de construire 1000 logements pour la police, 200 logements pour l'ordre des médecins en Côte d'Ivoire. Tu vas dire à un fonctionnaire burkinabé de payer un bâtiment à 30 millions même. Ça, il ne peut pas. Mais par contre, en Côte d'Ivoire, ça se réalise. Mais ce que je pouvais demander au gouvernement d'ici là, c'est d'accompagner nos fonctionnaires à l'autoconstruction. Les accompagner à un premier temps de prendre les parcelles vides, et à un deuxième temps, nous dire, nous les promoteurs, on veut que vous les accompagnez avec ce type de maison à ce prix à ne pas dépasser. Dans nos aménagements, on laisse tout au profit du gouvernement. Si vous voulez construire des gendarmeries ou du commissariat, nous, les filles pour ça, les écoles, nous, on laisse des grandes superficies. On nous a dit de construire 30% dans nos aménagements. Mais ils n'ont jamais signé nos approbations. Si tu construis, on dit que c'est illégal parce qu'ils ne t'ont pas donné approbation. Tu ne construis pas aussi, ils sont en train de dire aux gens que tu ne construis pas. C'est le privé, l'État veut retirer aujourd'hui à leur profit. Moi, je crois que le ministère doit organiser une assise nationale sur le foncier, auquel tous les participants doivent assister. Le ministère, les promoteurs immobiliers, les chefs de terre, les chefs coutumiers, les conseillers municipaux, les géomètres, les urbanistes, les catholiques, tous les partis prenants là, dans le foncier, assistent. Donner leur point de vue et à base de cela là, qu'on puisse modifier ce projet de loi. Si on fait cela, les Burkinabés pouvaient s'entendre. Mais avec la rapidité qu'ils sont en train de partir, moi je sais que de l'avant ça ne va pas donner. Mais comme ils ont la force aujourd'hui, peut-être qu'ils peuvent faire. Même si tu as la force, il faut vraiment avoir le pardon. Vraiment, on les demande pardon. Nous demandons vraiment à ces gouvernants là de nous écouter, qu'ensemble là, on va sortir le Burkina dans le trou.
Merci.
Merci Monsieur Yaro.
Notre invité, Seydou Boro, le secrétaire général de l'APIB, Association des sociétés immobilières du Burkina, répondait aux questions de Moumouni Yaro. C'est la fin de ce journal réalisé par Fidèle Compaoré. Au relais Facebook, Yaya Djomandé, merci de nous avoir suivis. Excellent après-midi à toutes et à tous.
Radio Omega, l'info en direct.
Et tout de suite, les infos.